Vous avez été nombreuses et nombreux à appeler la RTBF aujourd'hui.
Pour participer à l'opération Parlons Solutions, un call center était organisé, il a fermé à 17h.
Simon, vous y avez passé la journée. Alors, petit bilan en votre compagnie, les experts ont répondu à nos auditeurs et à beaucoup de questions qui ont été formulées.
Oui, effectivement, pas mal de questions toute la journée. Pour y répondre, on avait réuni à la RTBF les sociétés de transport en commun, bien sûr, hein, SNCB, Textib, les services régionaux de mobilité, des experts de Touring, de Avélo, de l'Institut, des fiscalistes et experts comptables aussi. Vous voyez, avec un champ assez large, hein, de questions très concrètes sur la mobilité que nos auditeurs nous auront posées.
Alors, épinglons les principales questions pour que les réponses, comme vous le disiez tout à l'heure, profitent à tout le monde. C'est quoi qui est le plus revenu et quelles solutions ont été évoquées par les experts?
Alors, il y a pas mal de personnes, d'ailleurs tant des travailleurs que des employeurs, qui nous ont appelés en recherche d'alternatives à la voiture de société, hein, qui nous disaient « Oui, cette voiture, je l'ai, là, elle fait partie de mon package salarial, mais je n'en ai pas forcément besoin, ou en tout cas pas une voiture de cette taille-là. » Eh bien, il y a une solution, en tout cas si vous avez une voiture de société thermique ou hybrides, hein, qui ne sont donc plus 100% déductibles. Ça s'appelle le budget mobilité. Ça existe depuis plusieurs années. Pourtant, c'est assez méconnu. En fait, en gros, l'employeur prend la somme qu'il consacrait à votre voiture de société et il confie cette enveloppe, ce budget mobilité au travailleur qui peut en faire trois choses. D'abord, reprendre une voiture de société, mais électrique. Cette fois-ci, ça, c'est obligatoire dans ce cadre-là et qui sera donc 100% déductible. C'est plus intéressant. Il peut, deuxièmement, financer un autre moyen de transport, hein, vélo, trottinette, transport en commun, ou participer aux frais du logement qui est proche du travail, donc pour réduire les trajets domicile-travail. Et puis troisièmement, s'il reste encore un petit peu dans cette enveloppe mobilité, on peut se verser le reste comme un salaire net. Vous voyez que ça offre plus de flexibilité qu'une voiture de société. C'est en fait un incitant fiscal à aller vers une mobilité plus verte.
Alors, deuxième question qui est pas mal revenue. Je voudrais aller en train au travail. Est-ce que je suis remboursé?
Oui, absolument. En train ou n'importe quel transport en commun, d'ailleurs. L'employeur en Belgique est obligé de payer au moins 70% d'un abonnement. Dans certaines commissions paritaires ou entreprises, c'est plus, mais c'est minimum 70%. À noter d'ailleurs qu'il existe depuis le Covid des abonnements de train pour 2 ou 3 jours par semaine pour les gens qui télétravaillent certains jours. Puis pour les autres moyens de transport, pour le vélo par exemple, il y a une indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail. Ça dépend des commissions paritaires et des entreprises, mais en gros, ça tourne autour d'une trentaine de cents par kilomètre. Et puis en voiture, l'intervention minimum de l'employeur pour les trajets, donc toujours domicile-travail, doit être égale à celle si on prenait les transports en commun, donc les fameux 70% de l'abonnement. Mais dans plusieurs entreprises et plusieurs secteurs, on propose plus. Là, il faut se renseigner au cas par cas auprès des ressources humaines.
Et puis une dernière, pour compléter ce top 3 des questions les plus posées, des personnes qui voudraient se mettre au vélo mais déplorent la qualité ou l'absence des pistes cyclables sur leur trajet.
Ouais, alors là, évidemment, il n'y a pas de solution miracle en tant que telle, mais un conseil quand même, dites-le, signalez vos besoins à votre commune, si c'est une voirie communale, à la région. Vous pouvez aussi le dire à l'association qui était là aujourd'hui, l'association de cyclistes à vélo qui centralise toutes ces demandes et qui fait du lobbying auprès des pouvoirs publics. Et puis un dernier petit conseil, si vous avez un accident ou si vous êtes témoin d'un accident en vélo, même léger, hein, surtout dites-le à la police parce que ça aide les autorités à cartographier les zones les plus dangereuses. Il y a beaucoup de petits accidents qui passent en fait sous les radars simplement parce que les autorités ne sont pas au courant, c'est bien de le dire.
Merci à vous Simon Bourgeois pour toutes ces réponses et tous ces conseils. On poursuit avec la Flandre. Après des villes comme Bruxelles ou Amsterdam, c'est au tour donc de la Flandre de durcir ses règles en matière de location de courte durée proposées par des plateformes comme par exemple Airbnb.
Le gouvernement flamand vient de donner son feu vert à une série de mesures pour mieux lutter contre la prolifération de ce type d'hébergement Joyce.
Oui, car le concept ne n'est plus vraiment ce qu'il était. Par le passé, une location Airbnb permettait aux touristes de vivre une expérience authentique chez l'habitant sans pour autant se ruiner. De son côté, la personne qui proposait son bien pouvait se faire un peu d'argent en louant son habitation, par exemple durant son absence. Mais ce concept a donc évolué. Les bailleurs et les investisseurs ont compris qu'il leur était plus rentable de louer un logement pour quelques jours à des touristes que de proposer un bail de longue durée à des locataires. Résultat, nombre d'entre eux ont acheté en masse des appartements, voire même des immeubles entiers, dans le seul but d'en faire des hébergements Airbnb. Une tendance qui a fait grimper les prix de l'immobilier dans de nombreuses villes flamandes. Certains quartiers ont également perdu de leur authenticité face à l'afflux de touristes. Pour le ministre en charge du tourisme, Hans Bonte, il était donc temps de prendre des mesures.
Quelles sont justement, Joyce, les nouvelles règles à respecter ?
Alors dorénavant, tous les hébergements proposés sur les plateformes de réservation devront obligatoirement disposer d'un numéro d'enregistrement délivré par l'Office flamand Tourisme Vlaanderen, un numéro qui ne sera accordé que si l'exploitant répond aux conditions strictes imposées par le décret flamand sur l'hébergement. Le bailleur devra prouver que son logement est conforme aux normes de sécurité incendie. Il devra aussi respecter les exigences en matière d'assurance, d'hygiène et de qualité de logement. Il faut savoir qu'une partie de ces règles était déjà en vigueur en Flandre, mais d'après un contrôle annuel mené par Tourisme Vlaanderen, eh bien, seuls 6 hébergements sur 10 répondaient aux normes.
Comment les autorités flamandes vont-elles procéder pour garder tout ça à l'œil et garantir le respect des règles ?
Alors, l'agence Tourisme Vlaanderen continuera d'effectuer des contrôles administratifs et des contrôles in situ. Et pour éviter que des hébergements passent inaperçus ou qu'ils soient loués illégalement, les plateformes Airbnb, Booking et autres seront désormais obligées de partager leurs infos et les données dont elles disposent avec les autorités flamandes. Les sites de réservation ne pourront d'ailleurs plus publier d'annonces si le bien proposé ne possède pas le fameux numéro d'enregistrement. Et de leur côté, les autorités locales vont également disposer de moyens supplémentaires pour intervenir en cas de nuisance. Si les règles d'urbanisme ne sont pas respectées, un simple procès-verbal de la commune sera dorénavant suffisant pour que Tourisme Vlaanderen puisse fermer un hébergement, alors que jusqu'ici, eh bien, une longue procédure d'exécution était nécessaire.
Joyce, quand est-ce que toutes ces règles entreront en vigueur et quels sont les résultats attendus ?
Alors, le ministre du Tourisme espère que ces mesures pourront être appliquées cette année encore. Selon le socialiste Hans Bonte, les nouvelles règles auront des effets positifs pour le marché immobilier et pour le secteur touristique. Il estime que les visiteurs pourront ainsi profiter d'hébergements plus sûrs et de meilleure qualité. La région évitera dans la foulée que des logements soient rachetés par des investisseurs avides d'argent. Grâce à cette approche plus stricte, le ministre affirme que les logements pourront être utilisés pour ce à quoi ils ont été construits, c'est-à-dire pour y vivre. Rendez-vous donc dans quelques années pour voir si tout ça aura fonctionné.
Joyce Hazard. Il y a 10 ans, la campagne pour le référendum sur le Brexit faisait rage au Royaume-Uni.
Et finalement, le 23 juin 2016, près de 52% des électeurs choisissent de quitter l'Union européenne. 10 ans plus tard, le Brexit n'est plus seulement une crise politique ou économique.
Ah oui, il est devenu un cas d'école sur la manière dont la désinformation, les réseaux sociaux et les campagnes numériques peuvent influencer une démocratie moderne. C'est ce que vous nous expliquez, Olivier.
Oui, on peut même dire que c'est la première campagne de désinformation massive de l'ère moderne. Une époque où de nombreux signaux semblaient encore marginaux. Compte automatique sur Twitter, micro-ciblage publicitaire sur Facebook, ingérence étrangère, emballement médiatique, slogan simpliste. Aujourd'hui, ces mécanismes sont devenus centraux dans presque toutes les campagnes électorales occidentales.
Oui, c'est vrai qu'avec le Brexit, c'était la première fois en Europe que les réseaux sociaux jouaient un rôle central dans une campagne électorale.
Oui, c'est vrai. C'est ce que confirme d'ailleurs Linda Giftach, qui a dirigé l'enquête sur la désinformation et le Brexit, réalisée par les journalistes du réseau de radio Euranet+.
Des études ont démontré que des comptes automatisés sur Twitter ont amplifié massivement les messages du camp des Brexiteurs avant de disparaître juste après le vote. D'autres études ont démontré que la Russie était derrière la plupart de ces faux comptes.
Des réseaux, Olivier, utilisés pour manipuler les électeurs.
Oui, mais dans le même temps, ce serait trop facile de mettre le Brexit sur le dos des seuls réseaux sociaux. Une partie de la presse britannique préparait le terrain depuis des années à travers une couverture profondément eurosceptique. Le cas de Boris Johnson est assez emblématique. Bien avant d'être Premier ministre, l'homme a débuté sa carrière comme correspondant bruxellois du Daily Telegraph, multipliant d'ailleurs les récits exagérés ou trompeurs sur une Union européenne prétendument obsédée par la suppression de la souveraineté britannique. Il est ainsi devenu une figure pivot dans la diffusion de l'euroscepticisme bien avant le référendum. Le Brexit est donc le résultat d'un récit médiatique construit sur plusieurs décennies. Les réseaux sociaux et les slogans trompeurs ont juste amplifié le phénomène.
Oui, on se souvient notamment de ce slogan hein, des 350 millions de livres sterling qui allaient rentrer dans les caisses du Royaume si le Royaume-Uni quittait l'Union Européenne.
Mais un gros mensonge, reconnu d'ailleurs ensuite par Nigel Farage, l'un des artisans du Brexit. Mais pourtant, il a survécu. Selon une étude de UK in Changing Europe, publiée en 2019, 2/3 des Britanniques avaient entendu ce chiffre et 42% de ceux qui le connaissaient continuaient pourtant à le croire vrai. C'est l'un des enseignements majeurs du Brexit. Une information fausse, mais qui touche nos émotions, peut survivre très longtemps après avoir été démentie.
Et ça, Olivier, c'est valable aussi dans l'Union européenne.
Mais oui, parce que le Brexit a finalement contaminé le débat européen. Alors, plus personne ne parle de sortir un pays de l'Union européenne, mais le référendum britannique a révélé la puissance des réseaux sociaux dans la fabrication des récits politiques. Il a aussi mis en lumière la fragilité des démocraties face aux campagnes qui jouent sur les émotions et la difficulté à corriger un mensonge une fois qu'il s'installe. Le Brexit a surtout démontré la capacité des plateformes à transformer la colère en dynamique électorale. Le problème, c'est qu'en 2026, ces mécanismes sont encore plus puissants qu'en 2016. L'intelligence artificielle permet désormais de produire à moindre coût de faux articles, de faux témoignages, des deepfakes, autant d'outils aujourd'hui disponibles pour tous. Autrement dit, le Brexit n'était probablement pas une anomalie, c'était juste un avant-goût.
Olivier Henrion.
Mieux comprendre l'Europe avec Euronet Plus, le premier réseau d'information européenne.
17h55.